Hello.
Salut.
Salut.
Il y a du monde.
Salut. Salut.
Dans le studio de Radio G.
Ouais. Forme olympique.
Oui. Comme
Radio
la flamme.
G. Voilà. La flamme de l'imaginaire, c'est tous les mardis pairs sur Radio G. 101.5 de 21h à 22h. On a Sébastien avec nous ce soir. Enfin, alors, on est de retour du salon imaginaire, donc on va vous passer des extraits des micro-trottoirs que vous avez fait. Sébastien, Jean-Luc, Pierre qui sont là dans le studio.
C'est ça.
Ok, super.
Donc, je salue quand même Pierre, qui est notre stagiaire cette année imaginaire. C'est lui qui a réalisé tous les montages de nos micro-trottoirs ou salons.
Ouais, c'était une première fois d'aller un petit peu à la rencontre des gens, de récolter leur avis. Enfin, pas que les visiteurs, aussi les auteurs, les autrices et les illustrateurs et illustratrices. Donc c'était une petite nouveauté qui a permis un contact un peu différent cette année.
Donc c'était en direct
Et pas seulement sur le trottoir apparemment.
Sur les réseaux. On ira sur le trottoir. Tout à l'heure, j'ai scindé ça en deux morceaux. D'abord une première partie plutôt écrivain, maison d'édition, puis une deuxième partie plutôt illustrateur, illustratrice et art visuel. Et sinon, certains d'entre vous ont été voir le nouveau film Mad Max, paraît-il.
Oui, c'est
Furiosa,
ça.
Pour être exact.
Furiosa, c'est ça.
Une Mad Max story.
Donc on en parlera en deuxième partie de l'émission. Et puis en troisième partie, si vous détruisez pas la table du studio d'ici là.
Pas comme dans Mad Max, faut pas tout détruire.
Hein. Ah ouais, voilà. on aura la diffusion de l'enregistrement d'une petite table ronde que Manon, notre anthologiste, avait réalisée donc au Salon Imaginaire le dimanche matin. Elle avait fait se rencontrer les écrivains, écrivaines et leurs illustrateurs, illustratrices. Donc on s'écoutera cette petite table ronde avec Nadia Coste et Laure Truffandier. Et donc on commence tout de suite avec le premier micro-trottoir enregistré il y a quelques jours au Salon Imaginaire.
Bonjour à tous, nous sommes avec Anjou Pop Corner. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Moi je suis Kerem Hassan, du coup je suis président d'Anjou Pop Corner, qui est un média spécialisé dans la pop culture. On propose tout un tas de contenus comme des interviews par exemple.
Donc moi Axel Douglas, j'ai intégré le média il y a un peu plus de 6 mois maintenant, et j'essaye d'apporter ma petite pierre à l'édifice, notamment avec ce salon où moi je suis aussi auteur à côté de romans fantasy, donc forcément je connais un petit peu le milieu.
Est-ce que vous pouvez nous parler de vos missions ?
Ce qu'on a vraiment envie avec Anjou Pop Corner, c'est de partager nos passions. Donc on a plein de passions parce que la pop culture c'est assez large, ça va des univers de l'imaginaire au fantastique, à la japanimation, à l'univers geek aussi et l'univers web. Donc chacun a un petit peu ses univers de prédilection. D'accord. Et on va les partager comme ça avec des formats un petit peu plus sérieux, de l'interview, des discussions et puis aussi des choses plus légères, des best-of, des vlogs, pour que là les gens qui sont plus adeptes de l'entertainment finalement s'amusent aussi avec Anjou Pop Corner.
Bonjour Francis, moi je suis très content de te voir parce que tu es un fidèle vraiment d'imaginaire. Et qu'est-ce que ça te fait toujours de revenir au salon? C'est toujours une nouvelle émotion?
C'est surtout un grand plaisir, si on peut qualifier ça d'émotion, oui. Ça permet de voir les camarades et puis chaque jour, chaque fois apprendre des choses nouvelles, hein, échanger, rencontrer des gens, c'est formidable.
Et tu es aussi un auteur régulier de l'anthologie imaginaire. As-tu participé à la dernière en date, Texte de l'art ?
Oui, voilà, j'ai participé à Texte de l'art et puis j'ai participé à plusieurs reprises, oui, pas mal, les anthologies. Mais chaque fois, c'est intéressant parce que ça permet de partir sur un thème et puis de s'escrimer un peu avec l'imaginaire, justement, et de le mettre en forme.
Merci, Francis.
Donc nous sommes à présent sur le stand d'IBI Édition, donc bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous pouvez d'abord présenter un petit peu votre maison et votre rôle?
Nous, on est une maison d'édition de représentation queer ou LGBT. On fait principalement des littératures de l'imaginaire en novella, roman ou recueil de nouvelles. Et nous, on est vraiment dans une volonté de normalisation et donc de représentation accessible à tout le monde. Donc moi, je suis Fanny, la coprésidente de la maison d'édition. Voilà.
C'est votre premier salon ici? Comment ça se passe pour l'instant pour vous?
Alors, pour l'instant, c'est calme, mais on est que samedi matin, donc on ne doute pas que le public va bientôt être au rendez-vous et on est ravis d'être là. On a eu un très bon contact avec l'association Imaginaire depuis un an qu'on vous a rencontré à l'Ouest-sur-Lan, donc on était vraiment ravis de pouvoir participer à cette première édition.
On vous souhaite un excellent salon en tout cas, merci beaucoup de votre présence. Nous sommes à présent avec Jean-Claude Dignac, bonjour.
Bonjour, ravi d'être là.
Vous êtes notre prix Ayardal cette année, vous le recevez à 18h. qu'est-ce que ça vous fait par rapport à cette remise?
Bah, c'est l'occasion de reparler d'Ayerdal qui manque toujours et qui a laissé un gros trou dans l'imaginaire en s'en allant, quoi. Et comme j'ai eu la chance vraiment de bosser avec lui, et bah, je vais lui rendre hommage. Ça va être l'occasion de le faire. D'abord, on a écrit un bouquin ensemble qui s'appelle Étoile Mourante, mais avant, on a commencé à se montrer nos manuscrits et à intervenir sur les textes des uns et des autres. Et quand on a eu fini Étoile Mourante, en fait, là, carrément, on a beaucoup échangé sur tous nos bouquins, et il m'est arrivé d'avoir des chapitres dans certains de ses bouquins et lui d'avoir des chapitres dans certains des miens, quoi. Parce que quand on est à la bourre, ben, c'est bien d'avoir un copain à côté qui peut rajouter des trucs pendant qu'on travaille de son côté, quoi.
Très bien, bah, écoute, on va vous souhaiter un bon salon en tout cas. Et on se revoit à 18h du coup pour la remise du prix.
De rock toulousain, un enregistrement de 1983. Pourquoi je passe ça dans Imaginaire sur le 101.5?
Le parolier.
Eh ben attends, je t'entends pas du tout,
Patrice. C'est normal, j'ai pas le micro.
Ah ben voilà, forcément, c'est mieux.
On en a un pour deux.
Pardon,
le parce que le parolier, c'est
Jean-Claude Duniac, ben voilà, qu'on entendait juste avant, et donc à qui nous avons remis le prix Ayerdal au Salon Imaginaire. Et on écoutera probablement la rencontre qu'on avait fait juste avant de remettre ce prix. C'était Romald qui animait tout ça, et ce sera probablement diffusé dans 2 semaines dans cette émission.
Tout à fait.
Karine, tu nous fais un petit bilan du Salon Imaginaire 2024.
Eh bien, vous avez raté. Si bah non, vous n'êtes pas venu. Une 60aine d'intervenants, tous plus intéressants les uns que les autres. Et donc une 40aine d'auteurs et d'autrices, une 15aine d'illustrateurs et d'illustratrices, et un petit peu moins d'une dizaine de maisons d'édition, artisans et associations. Donc, on a parlé de pas mal de sujets, notamment l'IA par l'approche éthique et juridique avec Ronald Pousseau et Lionel Davoust, et Caroline Duguay également.
Une juriste.
Oui, tout à fait. On a parlé de l'art en littérature de l'imaginaire avec Frédéric Dupuis, Morgane Stankiewicz et Florian Soulas. On a eu un atelier d'écriture animé par le Bombix Mori Collectif.
Ouais, la médiathèque Toussaint.
Voilà. Et une table ronde du livre à la mise en scène pour parler cinéma, théâtre, etc. avec David Coulon, Samuel Lehage et Gilberto Villaruel. On avait également, en fin de journée, une table ronde « La dimension artistique existe-t-elle indépendamment de son lecteur ou de sa lectrice ?» avec Michel Astrude, Pierre Léauté et Eva Martin. Et une rencontre avec Jean-Claude Duniac, puis la remise du prix à Yerdal le samedi.
Alors,
on a eu des petits cafés littéraires.
Ouais. Donc, on va en écouter un tout à l'heure, effectivement, café littéraire. Voilà. On a capté certains de ces trucs en audio. On diffusera aussi ça peut-être dans les semaines qui arrivent. Alan de Fantastinette aussi, un petit peu filmé. On verra si c'est diffusable, quoi. Bon, les salons qui en ont ski, ça reste pas très facile à sonoriser. Donc voici Voilou. Est-ce qu'on peut la team micro trottoir là, est-ce qu'on peut les revoir vos petites vidéos?
Les revoir alors les vidéos, on en a certaines qui sont accessibles indéfinitivement sur Twitter et sinon vous les avez sur Instagram en story à la une. C'est vrai que ça a plutôt été pensé comme un moyen de communication live plutôt éphémère qui était sur le coup. Et c'est vrai que c'était uniquement pour montrer un petit peu la vie au salon, comment se déroulait le salon et les impressions des gens. Et ce qui est vachement bien là-dessus, c'est qu'on a pu avoir des retours par message privé de personnes qui nous disaient que justement ça leur avait permis de, même si elles n'étaient pas présentes au salon Kurnonski, d'avoir quand même un aperçu et voir un petit peu ce qui pouvait se passer. Donc c'était plutôt positif. Même les gens qu'on a pu interviewer étaient assez contents de l'expérience, du moins j'ai l'impression, pour ceux qui nous l'ont dit. Donc ouais, c'était plutôt une bonne première expérience.
On s'écoutera une deuxième partie de certains des micro-trottoirs dans quelques minutes dans cette émission. Il y avait l'Anjou Pop Corner aussi qui était là. Vous avez entendu qui ont fait aussi des interviews peut-être un petit peu plus longues.
Oui, complètement. Ils avaient tout leur matériel. Ils ont interviewé pas mal d'auteurs et d'autrices. Il me semble que c'est uniquement c'est ça. Donc,
Il y a eu aussi des illustrateurs. Hein. J'ai vu que Boris Besoin.
Il y en avait aussi. En effet, il y en avait aussi. Ouais, ça. Donc ça, ils ont passé ça tous les deux jours du salon. J'ai pas pu jeter un œil plus que ça, mais c'est vrai qu'ils vont pouvoir diffuser ça après sur leur propre réseau, donc sur leur chaîne YouTube.
Oui, ça va être des petites interviews hein, en réalité.
Right.
Je sais pas de combien de minutes.
Et puis sinon, nous, imaginaire, on a aussi fait des interviews dans une salle par Jean-Hugues et Sylvain. Et ça commence à arriver sur YouTube.
Oui. Tout à fait. Ben, on a déjà Alain Piusségur. Et puis un petit aperçu de la fresque participative également.
Donc fresque participative des illustrateurs et illustratrices.
Oui, c'est ça.
Tout à fait.
C'est ça, c'était un projet qui leur tenait à cœur. C'est à l'initiative de Fabien Colneau et de Enzo, qui voulaient une œuvre participative pour un petit peu l'expression libre de tous les artistes présents sur le salon. Ça a plutôt bien fonctionné, parce que pas mal ont mis la main à la pâte justement pour créer quelque chose de commun.
En fait, la plupart des illustrateurs et des illustratrices présentes et présents ont participé à cette fresque, hein, il me semble, d'ailleurs.
Ouais. Ouais, c'est ça.
Tout le monde a participé.
Une bonne majorité, ouais.
Voilà, on sait pas trop ce qu'on en fera, on l'a toujours, cette presse. Donc, ils ont fait ça dehors, hein, parce que. Il y avait des graffeurs aussi, peut-être, dans le lot et tout. Donc, c'est pas trop le genre d'activité qu'on peut faire en intérieur.
Il valait mieux, de toute façon, la faire en extérieur.
Ouais. Bon, puis le temps le permettait, donc. Donc, dans quelques minutes, on entendra leur. Leur micro-trottoir, et puis c'est Fabien qui parlera un petit peu de ce projet très sympa, qui était une nouveauté hein, pour le salon imaginaire.
C'était une idée
qui traînait depuis un moment.
Oui.
Voilà, d'autres impressions. Hein,
Peut-être à reconduire justement pour les années prochaines.
Ça peut devenir une petite tradition à chaque édition, ouais.
Okay.
Ça peut faire honte aux utopiales qui avaient fait ça dans le temps et qui ont arrêté malheureusement. Enfin, c'était pas de cette taille-là, mais enfin, c'était sympa quand même aussi.
Ouais. Bon, ils nous ont piqué l'idée du karaoké depuis, donc. D'ailleurs, je vois que Jean-Luc n'a plus de voix.
Si, je suis bien là.
Bon, ça, c'est du off, hein, le geek karaoké du Salon Imaginaire. Mais c'était très sympa. Moi, et heureusement, ça n'a ni été filmé ni enregistré. Ouais, Sébastien.
J'ai une petite question donc pour Patrice, que je connais depuis très très longtemps. Là, c'est quand même la 13e édition là, du salon qui s'est déroulée. Et moi, j'ai été aux toutes premières qui se déroulaient à la tour Saint-Aubin, rue des Lys, avant de se passer un peu plus loin donc au salon Kurnowski.
2011, la première. Oui.
2011. Et j'aimerais savoir, Patrice, même si dorénavant, on t'est plus derrière ton stand en tant qu'auteur, puisque tu écris également donc beaucoup et tu as participé à des anthologies, qu'est-ce que toi, en fin de compte, tu apprécies dans l'évolution, dans les évolutions donc des différentes éditions imaginaires jusqu'à celle d'aujourd'hui ?
J'avais préparé la réponse. Je ne vais pas la préparer, parce qu'en fait, moi, je dis justement, ce qui est intéressant, c'est ce qui n'évolue pas. C'est-à-dire la convivialité, le fait que même les gens mécontents au début repartent en disant « je veux revenir », et ça, c'est notre marque de fabrique, et j'espère que ça n'évoluera jamais, quelle que soit la taille, le nombre de visiteurs, la météo dont on dit qu'elle a une influence, mais enfin, moi, j'y crois pas. Voilà, faut que ça garde cet esprit chaleureux que tout le monde ressent, visiteurs et participants.
Ok, bon, d'autres choses à ajouter dans le studio ?
Non. Non, mais pour peut-être un petit mot de la fin, en tout cas de ma part, c'est que le salon, c'était en tout cas une première expérience pour moi et que j'ai trouvé en tout cas que c'était une expérience vraiment agréable et à refaire en tout cas, peut-être pas forcément en tant que bénévole, mais peut-être en tant que visiteur, si jamais je ne suis pas bénévole les années prochaines. Mais voilà, je trouvais que l'ambiance était géniale, l'organisation était super et puis c'est vraiment un bon moment pour rencontrer beaucoup de choses éclectiques. Donc voilà, si vous nous écoutez, venez l'année prochaine.
Ok, très bien. À la diffusion d'une deuxième partie des micro-trottoirs que vous avez réalisés, mais là, côté illustration cette fois.
Donc nous sommes à présent avec Boris Beuzelin. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ?
Je suis auteur de BD, illustrateur, scénariste parfois.
Alors vous êtes aussi donc, le créateur de notre affiche pour cette 13e édition du Festival Imaginaire. Vous avez fait l'illustration. Est-ce que vous pouvez nous la présenter un petit peu, nous parler un peu de votre univers aussi ?
Le thème de cette année, c'était l'art. Donc je suis parti sur une idée d'art urbain et de graffiti. J'ai imaginé qu'il y avait un graffeur qui s'était approprié une façade d'immeuble. Et il y a peint des espèces de petits virus façon jeu vidéo qui rappellent un peu le jeu Space Invaders pour un peu signifier que l'immeuble est rempli de climatiseurs, voilà. Donc pour un peu signifier que voilà l'univers dans lequel vivent les personnages est complètement pollué. On le voit, ils ont tous des masques et des appareils respiratoires, voilà.
Bonjour à tous, donc là nous sommes sur le stand sur le fil et la plume. Donc bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Alors je suis Carole Demi-Fournigo, je suis la créatrice du fil et la plume, la couture au service du livre et du lecteur. Je fais des protège-livres. Mes protège-livres ont tous un marque-page intégré. Ah oui, si je mets à l'endroit, c'est mieux. Je l'ai fait aussi avec la trousse intégrée que vous voyez ici. Il y a la petite trousse pour mettre son petit crayon. Il y a les pochettes à livres pour les pochettes, pour les poches et pour les brochets. Vous avez les marque-pages qui sont ici. Alors, je fais plusieurs sortes de marque-pages, des marque-pages aimantés, des marque-pages élastiqués. Enfin, tout un monde d'accessoires pour le livre et le lecteur.
Voilà. Vous avez des coussins pour...
Alors moi je l'ai toujours avec un coussin sur les genoux, ça repose les bras, ça casse moins la nuque et quand vous avez un gros pavé, vous l'avez plus sur les genoux, vous l'avez sur le coussin.
Salut Urban Gitan, alors c'est ton premier salon, heureux d'être là ?
Salut, ouais, je suis très content, ouais, c'est mon premier salon imaginaire, le cadre est super sympa, ça fait un anachronisme avec mon univers futuriste.
Et peux-tu nous dire en quelques mots ce que représente ton univers futuriste ?
Alors, en quelques mots, c'est un mélange de science-fiction et d'horreur, en fait, cyber-vampire, cyberpunk manager, syndrome du sauveur interstellaire, cyber-pirate, etc. C'est des univers que je me suis inspiré de ce qui est Terminator, Robocop, Predator et compagnie.
et qui sont ancrés aussi dans notre réalité contemporaine pour passer des messages.
Oui, bien sûr. Mon œuvre principale, Cyberpunk Manager, ça dénonce un petit peu le management actuel dans les entreprises, où c'est pas tip-top, quoi.
Ok, je te remercie beaucoup pour cette petit échange et je te dis à plus tard sur le salon.
Bonjour à tous. Donc là, je suis au stand de Yaril. Bonjour Yaril.
Bonjour.
Donc est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ton travail ?
Eh ben moi je suis du coup illustratrice animalier et créature fantastique. Donc principalement on voit beaucoup de corgis. C'est un petit peu la mascotte du stand. Et en fait le but c'est de le faire voyager dans des mondes un peu fantastiques et lui faire rencontrer des créatures ou avoir des histoires un peu oniriques avec.
Et pourquoi avoir choisi le corgi ?
Eh bien, à la base, en fait, j'ai découvert la race de chiens et en fait, j'ai trouvé qu'ils étaient juste solaires. Et c'est un chien qui, je trouve, qui a tendance à vouloir faire rêver, à vouloir faire rire et à vouloir faire sourire. Et en fait, c'est quelque chose que je veux faire avec mes illustrations aussi.
Bah, bravo, c'est vrai que c'est plutôt original. Bah, merci beaucoup.
Salut Botero, alors que tu es content d'être au salon cette année ?
Alors moi je suis toujours content d'être ici pour plein de raisons, parce que la thématique me plaît, parce que je retrouve des copains, parce qu'il y a des illustrateurs de fous, des romans de fous, et j'ai toujours une affection particulière pour ce festival. C'est le premier festival qui m'a exposé, ma première exposition je l'ai fait grâce à Imaginaire, donc tous les ans je reviens avec plaisir, et dès qu'on me demande, et dès qu'on me demandera dans 10 ans, dans 20 ans si je fais encore ça, je serai toujours content de revenir, parce que c'est ici que finalement tout a commencé pour moi.
Et d'ailleurs tu participes à une fresque en bas, donc où chacun des illustrateurs va dessiner. Peux-tu nous en dire un peu plus ?
Ouais, c'est une très bonne initiative d'un copain qui on va tous s'y mettre, en tout cas ceux qui veulent participer. Il va commencer à dessiner, puis on va s'incruster dessus et finalement chacun y mettre notre patte pour faire un petit medley assez représentatif des gens qui sont là aujourd'hui, quoi.
Ok, super, merci à toi et
merci à vous,
bonne journée.
Bon festival à tout le monde.
Merci.
Ça faisait quelques années que je pensais justement à faire ce genre de truc, histoire qu'on se rencontre un petit peu tous et voilà, qu'on puisse communiquer entre graphistes et tout. Donc on avait émis l'hypothèse l'année dernière, enfin on avait proposé à Pierre-Marie l'année dernière ce truc là. Donc
voilà,
il a fait une demande à la mairie pour que ce soit accepté et histoire qu'on n'abîme pas les lieux.
C'est l'expression libre en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun s'est exprimé sans avoir de contraintes ou sans avoir de barrières en disant tu dois faire ça. Chacun s'est exprimé en faisant un peu du grand n'importe quoi, quoique que le canard, moi qui crache des lasers, je le kiffe.
Ah ouais, je trouve ça génial.
Je l'aimais bien avant, mais là je l'aimais encore plus. C'est extra, c'est juste, c'est ludique, c'est libre. Et voilà, on n'a pas besoin de savoir dessiner pour venir s'exprimer, c'est ça qui est important.
Donc coucou Lia, c'est ta quatrième fois à Imaginaire, cette édition tu la trouves comment ?
Super, il y a des super artistes, il y a des super auteurs, je suis ravie de revenir. Il faut savoir que moi je suis venue la première fois, c'était en 2014 en tant qu'exposante, du coup parce que je suis illustratrice de mon métier, et puis le fantastique, l'imaginaire, la fantaisie, enfin tout ça, ça m'a toujours intéressé. Donc c'est un rendez-vous que je fais chaque année. Quand je peux le faire, je le fais.
Et t'as trouvé des choses qui t'ont plu, que t'as acheté ?
Oui, j'ai encore fait flamber ma carte bleue. Donc c'est vrai que je suis allée soutenir les jeunes créateurs et les jeunes éditeurs. Donc oui. Je suis très contente du coup.
Merci Lia pour ton enthousiasme et de voir d'autant de jolies choses.
classique du stoner rock, Hell on Wheels, par Fu Manchu. C'était le premier titre de leur album King of the Road en 2000.
King of the
Road. Pas complètement déconnant pour parler de Mad Max, ouais. Parce que j'ai vu que quelqu'un avait fait un clip sur YouTube avec des images de The Road Warrior, donc alias Mad Max 2, le défi. Si j'ai bien suivi.
Road Warrior.
Alors,
bon.
Ceux qui y étaient, ceux qui ont la chance d'aller le voir.
On va parler de Furiosa, en fait.
Eh oui, voilà.
Une saga Mad Max. Moi, j'ai envie de poser une question à mes deux comparses, là. Est-ce que vous connaissiez déjà l'univers de George Miller avant de voir ce film? Est-ce que vous aviez vu tous les Mad Max, un ou deux?
Est-ce que vous aviez vu Babe, le petit cochon? C'est aussi un film de George Miller.
Babe, oui. Oui.
Des cochons qu'on voit.
Il y a longtemps.
Ah, tiens, l'univers de Mad Max. L'univers de Mad Max.
On retrouve même Babe, apparemment.
Et des cochons qu'on voit pas mal dans le troisième Mad Max, au-delà du Dôme du Tonnerre. Et j'ai bien vu les trois premiers, parce que je suis né en 79. Et ça m'a bercé du temps que ça passait sur Canal et après sur les grandes chaînes. Et surtout le Mad Max 2, le défi, qui m'a vraiment marqué, étant gosse. Et c'est ce qui m'a fait aimer aussi le combattant de l'autoroute, dont j'avais parlé en défi fantastique dernièrement.
J'ai vu le premier. Voilà.
Alors, ça t'a fait, ça t'a fait un drôle d'effet, du coup, de voir celui-là, parce qu'il y a quand même un, entre le premier et le reste, il y a quand même
il y a un
hiatus, comme on dit, quoi.
Il y a une différence, que ce soit dans les effets spéciaux, dans la...
Non, non, mais même dans l'univers.
Le tout premier Mad Max.
Le tout premier, il est quand même dans l'univers normal, quoi.
Oui, c'est ça, oui, c'est contemporain. Voilà. C'est pas vraiment du post-apo,
pas du tout. C'est même pas du tout.
C'est devenu.
C'est simplement un combat entre un policier furieux et puis, un gang de motards, hein.
Voilà. Furieux aussi.
Mais c'est à partir du 2 qu'on passe vraiment dans cet univers post-apocalyptique avec des barbares du futur avec tout leur colifichet et des mécaniques complètement folles. Et donc ça, vas-y Jean-Luc, dis-nous un peu ce que t'as pensé de ça, de ce
changement. J'ai pas vu le 2.
Ah bah alors.
Voilà, c'est ça, je suis désolé.
Mais il est fait dans l'ordre chronologique.
Ouais, c'est pour ça en fait. Alors Sébastien,
il n'y a pas vraiment d'ordre.
Qu'est-ce que tu penses du 2?
Ah bah moi, c'est mon préféré de tous les Mad Max.
Pas le seul.
Déjà, il y a un méchant que je trouve hyper charismatique, Humongous, avec son masque de hockey qui rappelle un peu Jason dans les années 80. C'est sorti à peu près dans les mêmes eaux. Et c'est vraiment un méchant qui, moi, m'a plu. Il est même, dans la scène de fin, il fait quelque chose d'extrême pour arrêter le camion-citerne. Donc, lors de la bataille finale, c'est un camion-citerne qui, normalement, transporte de l'essence. Il veut cette essence que Max va vouloir donc
protéger.
Et c'est à partir de là que moi, dans Mad Max, Furiosa, Patrice, moi, le méchant principal, c'est pas réellement Immortan Joe qu'on voit davantage dans Mad Max Fury Road, c'est Dementus. Et ce méchant, je trouve que c'est un méchant de pacotille et qui me rappelle un méchant de post-apo italien fauché, avec ses motos qui forment un char antique qu'on dirait tout droit dans un Bénur du futur. Et moi, c'est pas pour moi un méchant.
Oui, parce qu'il tient ses motos, effectivement. Ouais. Ça, c'est, mais, alors, quand même, George Miller, avec ses créations de mécaniques, est quand même toujours très original. À chaque film, on a l'impression qu'on a des mécaniques qu'on n'a jamais vues. Parce que t'en penses. Il y a de l'originalité dans ces créations.
Ça, je suis d'accord avec notamment le nouveau camion blindé qu'on voit dans Mad Max Furiosa. Et c'est le jour et la nuit avec le camion citerne très classique du deuxième.
Donc en fait, George Miller devrait plutôt être garagiste que cinéaste, si je comprends bien.
C'est un exemple, je ne veux pas tout dire aussi à la radio pour laisser le plaisir.
Bon, alors à part ça, le visuel du film, là, ne parlons pas des personnages, mais d'abord le visuel, les images, les cascades, là, ça vous inspire quoi?
Alors personnellement, pour les cascades, j'ai aimé, mais pour tout ce qui est effets spéciaux, j'étais vraiment déçu. Voilà, je le dis clairement, j'étais déçu. Les CGI piquent les yeux.
Ah ouais.
Certaines scènes,
ça pique.
Les effets spéciaux.
Visuels numériques.
Ouais, c'est ça. Dans certaines scènes, ça pique les yeux.
Parce que c'est trop fluide.
C'est trop voyant. C'est trop voyant, en fait. Voilà.
C'est trop des choses un peu extraordinaires, non? Moi, ça me gêne dans certains films d'action, effectivement, quand les mecs, on dirait que c'est du caoutchouc et qu'ils font des trucs.
Tu as tout à fait raison.
Ça veut dire qu'en fait, toi, tu vois un film à travers les effets spéciaux.
Non, mais en fait, pour moi, si les effets spéciaux sont mal faits, voilà, ça gâche tout. Et là, ça gâche tout. Clairement, je le dis.
Moi, je trouve qu'il y a des images absolument fabuleuses, des paysages fantastiques, et peut-être que c'est des effets spéciaux, mais à la limite, je m'en fiche. Parce qu'en fait, quand tu fais, je sais pas, quand tu fais une peinture, une fresque par exemple, tu vas pas demander à l'artiste s'il a fait un effet spécial en mettant ce pinceau comme ci, comme ça. Le résultat qui conduit. Effectivement, toi, ça te gêne parce que si tu vois ça en tant qu'effet spécial.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, je prends clairement, j'ai peut-être dû aller deux, trois scènes où ça vraiment, ils sont tellement flagrants.
Ouais. Ah oui.
Que ça me choque. Voilà.
Ouais, ça m'a choqué. C'est marrant, ça m'a pas dérangé. Parce que moi, ce qui m'a impressionné, effectivement, par rapport au tout premier où les cascades étaient faites en réel, quasiment, là, il y a des trucs qui sont certainement pas possibles de faire en réel, sinon les acteurs, ils seraient pas ressortis vivants.
Ouais.
Mais il y a une telle maîtrise du cadrage, de la prise de vue, comme souvent, il y a des trucs qui passent sous le camion, mais t'es avec le machin qui passe, et t'as pas vraiment l'impression, ça, je suis d'accord, t'as pas vraiment l'impression que c'est du trucage, quoi.
Oui, bien sûr. Oui.
T'as l'impression que c'est une vraie mécanique. Et peut-être que c'en est une vraie, que le gars, il a passé la caméra dessous, je sais pas. Et donc, ça, et puis, je te dis, il y a, comme dans le 4, une maîtrise du paysage,
oui,
de la couleur, qui est extraordinaire, comme ça. Rien que pour ça, ça vaut le coup, quoi. C'est très graphique, mais il n'y a pas que ça, quoi.
Et puis, il y a tout un monde, et ça, je rejoins un peu dans le visuel, tout un monde qui va se développer, des terres dévastées, désolées, avec trois villes. Trois lieux emblématiques. Pétroleville, le moulin à balles, la citadelle.
Ça, c'est très original.
Et ça donne vraiment une dimension supplémentaire lorsqu'on va aborder Feuilles Rodes, de s'imaginer vraiment encore plus ce monde vraiment très vaste, parce que c'est beaucoup le désert qui est filmé. Et c'est vrai que comme dans Dune, que j'aime beaucoup, Dune 2, le désert vraiment, il prend une certaine poésie avec aussi George Miller, et j'aime beaucoup.
Il y a des passages de montagne aussi, parce qu'il y a des rocs qui sortent de la drogue, et puis il y a des motos qui passent dessus, il y en a qui peuvent et qui peuvent, d'autres qui peuvent pas parce qu'ils sont pas assez vite. Mais il y a des trucs très originaux quand même. Puis, alors, là, les acteurs vous ont pas convaincu, mais il faut quand même remarquer que, je sais pas, tu disais, les dialogues sont pas très bons, peut-être, des trucs comme ça.
Plus le personnage de méchant des Mantus, voilà, qui est trop caricatural à mon goût.
Et pourtant, Furiosa,
on dirait un personnage de chez Marvel, un petit peu.
Aïe, aïe, aïe.
Avec ses blagues, ses,
voilà. Oui. C'est un personnage de féminin. D'ailleurs.
Ouais, c'est vrai.
Je pourrais pas avoir le dire, mais voilà. Chris Hemsworth, c'est pas bon.
Ah oui. Mais les formations professionnelles.
Il s'en est un peu sorti, quand même. Mais, Furiosa elle-même, elle a pas beaucoup de dialogue. En fait, tout passe par son regard, parce qu'elle est muette, enfin, elle dit rien, en fait, elle ne parle pas pendant trois quarts du film.
C'est vrai.
Et donc, c'est quand même une performance d'actrice d'arriver à faire passer tout ce qu'elle ressent, parce qu'elle en ressent des trucs. Et je veux dire, et pas seulement physiquement, mais aussi moralement et tout. Et ça, elle arrive très très bien à le faire passer d'un bout à l'autre.
Oui, c'est vrai.
Ça, c'est quand même très intéressant. Et le scénario, bon, c'est un scénario classique de vengeance, on va dire, mais ça, c'est un peu tous les Mad Max, c'est comme ça. Mais par contre, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des originalités. On racontera pas la fin, je vous en prie, parce que je trouvais que c'était vraiment très très original. Ce truc final, cette pirouette finale est originale. Visuellement, et voilà. Et il n'y a pas que ça, il y a des trucs où j'étais quand même surpris, moi aussi, dans le déroulement du film, même si on s'attend forcément à ce que ça va se taper. Il utilise des moyens, des fois, qui sont très, très originaux. Bon, on retrouve, bien entendu, les personnages du quatrième épisode,
hein. C'est ça.
Et il y a, à mon avis, un raccord. Alors, au niveau scénaristique, c'est quand même assez fort, hein. Il y a un raccord avec le 4. En fait, ça donne presque envie d'aller voir tout de suite le 4 derrière pour se rappeler un peu comment ça s'enchaîne. Et ça s'enchaîne parfaitement bien, en fait.
Mais j'en reviens un peu sur les personnages. Si c'est vrai que le personnage de Furiosa est bien joué par une actrice différente, quand même, le personnage de Jack le Prétorien avec qui elle va faire équipe, c'est pas le vrai Mad Max. On voit quand même Mad Max apparaître fugitivement à un moment donné dans le film, un caméo. Mais Jack, on dirait un sous-Mad Max. Je suis désolé, mais je sais pas ce que t'en penses.
C'est pas son rôle. C'est pas son rôle.
C'est comme le conducteur.
C'est pas son rôle. C'est un gars qui a une personnalité vraiment à l'opposé de Mad Max. Mad Max, c'est un furieux, lui aussi. Et lui, non, c'est un gars qui est.
Il est trop calme. J'ai envie de dire.
Mais c'est ça qui lui permet de survivre. Enfin. Qui lui permet de faire ses combats, c'est parce que il traite avec tous les ennemis du monde. Il y a un moment, ouais, que lui, il est pas calme, je sais pas comment ça passe, quoi. Non, ça m'a pas gêné, ça, pas du tout.
D'accord.
Tu voulais me poser une question, non?
Non, bah là, Pierre, toi qui as vu Fury Road, justement,
j'ai pas vu Fury Road, moi je me suis arrêté aux anciens, justement. Aux anciens.
Et qu'est-ce que ça te donnerait envie, justement, d'aller voir à partir des anciens les nouveaux?
Moi, c'est toute cette esthétique vieillotte, justement, que j'adorais. J'adore l'esthétique de vieille SF, quand il y a cet aspect futuriste, usé et vieux à la fois, c'est pour ça que mon film préféré, ça reste Alien, parce que justement, j'adore aussi. Ouais. C'est un genre complètement différent. Ça n'a rien à voir même visuellement. Mais là, Furiosa, j'en ai vu que des bandes annonces. Ça avait l'air beau, donc je suis pas du tout habilité pour juger les effets spéciaux. Moi, le dernier film là de SF que j'étais voir au cinéma, c'était La Planète des Singes. Et voilà, c'est tout. Puis de toute façon, c'est pas le sujet, mais. Moi, j'ai un très bon souvenir des vieux
Mad Max. Si t'aimes le rétro, faut aller voir La Planète des Singes avec Charlton Heston.
Ah, je les ai vus. J'ai vu les cinq des années 70, ouais. Je les ai vus. J'ai tous vu il y a pas longtemps. De toute façon, je me les suis refait tout, assez régulièrement.
On voulait ajouter que, donc, Fury Road avait deux versions. Une version couleur et une version black and chrome. Qui est pas sorti au ciné, je pense, mais qu'on trouve sur les DVD. Et là, apparemment, on aura aussi droit. Une version black and chrome,
noir et blanc de Furiosa, et peut-être que ça va te réconcilier Jean-Luc, justement, parce qu'on verra moins le numérique sauter à tes yeux en noir et blanc.
J'adorais le Free Road en black and chrome. Et j'espère, bon, on verra bien ce que ça change.
La question, c'est comment passe, par exemple, ce merveilleux paysage de brume et bleuté avec les échassiers de Furry Road, là. Quand ça passe en black and chrome, ça perd pas un peu de
ça fait du grisé.
Oui, c'est ça. Bah, en fait, je trouve que les émotions des personnages ressortent plus lorsque c'est dans ce ton-là que en couleur.
Toi, tu recommanderais plutôt de le regarder justement en noir et blanc.
Totalement.
Ou... Ouais. Faudra attendre les DVD, je crois.
Oui, bien sûr.
Ouais.
Ok. Bon, ben dis donc, on a dépassé le temps, mon cher ami.
Après, il y avait tant à dire.
Ouais, mais. Le film passe partout, hein. pas de problème pour le voir encore.
Si vous voulez faire un avis, comme on voit qu'il y a des avis différents sur le sujet, eh ben, allez le voir, puis vous en reparlerez à la radio.
Exactement.
Alors j'ai juste une chose à rajouter sur Furiosa. Je trouve que c'est un personnage qui est un peu cliché, en fait. Voilà. Après, je sais pas si ce que je vais dire va spoiler un petit peu, je sais pas.
Bon,
J'espère pas.
Éteignez votre radio si vous voulez pas être divulgaché.
C'est vraiment le début quand sa mère lui dit de partir. Elle revient pour voir sa mère alors qu'elle aurait pu partir. Et le film serait fini en deux secondes, en fait. Voilà, c'est vraiment.
Ça m'intéresse, le film est fini en deux secondes.
Surtout un film qui dure 2h40, ouais, quelque chose comme ça.
J'ai envie de dire, c'est un peu le cliché du personnage qui revient.
Ouais. Alors c'est cliché du scénario.
Cliché qui dit va-t'en, tu peux sauver tout le monde. Mais non, elle va revenir pour sa mère et.
D'ailleurs,
c'est un peu dommage.
Et si elle le faisait pas, est-ce que son personnage serait crédible?
Oui, parce qu'elle serait toujours là pour venger sa mère, je pense. Il y aura peut-être moins de.
Bon, sur
la discuté hors antenne, mais je suis pas d'accord.
sur la longueur du film,
pour le spoil.
C'est le plus long des cinq films Mad Max. Hein. Avez-vous vu le temps passé?
J'aurais même aimé qu'ils creusent davantage certains passages qui passent trop vite, surtout quand tu sais la Furiosa, elle doit se cacher d'Immortan Joe et ça étant enfant, hop, on la retrouve adulte comme si de rien n'était.
Ah oui, c'est vrai. T'as raison.
Il y a quand même plusieurs phases. Et il y a une très belle métaphore du temps qui passe à un moment avec la perruque.
Oui, sur l'arbre.
Au-delà des avis du film aussi, il y a peut-être un petit problème. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu les succès, le box-office.
Je crois qu'on ne peut pas parler de succès là pour Mad Max.
Non, il a dépassé à peine les 25 millions pour le premier week-end aux États-Unis. C'est un flop total. Oui, personne ne va le voir, ce qui annonce quand même du mauvais pour la suite de la saga au moins et de la SF au cinéma.
C'est bizarre parce que le précédent avait quand même eu un succès critique assez dithyrambique. Bon,
quand on voit le dossier de SF au cinéma, il y a quand même toujours un peu de succès. C'est Furiosa spécifiquement qui se plante complètement.
Bah, parce que il y a pas l'icône Mad Max qu'on aime retrouver dans les vieux films et dans Fury Road, c'est ça qui coince.
Fury Road, il y a pas Mad Max.
Ah si, il y a Max.
Ah oui, mais c'est pas le même acteur. Oui,
Pense que l'icône Furiosa n'attire pas autant
que l'icône Max, parce qu'on n'est pas habitué justement à ce personnage encore.
Une petite héroïne, c'est ça.
Bon, alors encore quelques films et puis
c'est que Miller un peu passé le style et puis que les gens ont envie de voir autre chose, ils préfèrent aller voir du Disney ou des trucs comme ça.
Ok. Bon, allez, on a tout juste le temps d'écouter la table ronde, enfin, café littéraire qu'avait animé Manon au dernier salon imaginaire. C'était avec Nadia Coste et Laure Truffandier à propos de leur nouvelle dans la dernière anthologie imaginaire, Texte de l'art, que vous pouvez acheter sur notre site internet, imaginaire.fr.
Achetez-le.
Ouais, ou alors vous nous retrouverez dans des salons. On s'écoute ça tout de suite sur le 101.5.
Donc, Laure, à qui on a envoyé plusieurs nouvelles, a choisi, entre autres, elle a fait deux illustrations, la Vénus de Manille et quelques gouttes de rouge et de bleu. Et pour quelques gouttes de rouge et de bleu, elle était bien embêtée parce que on imprime en noir et blanc. Et quand on a une nouvelle sur la couleur, comment on fait ? Eh bien, on profite de l'exposition pour exposer sa couleur. Donc, je vous inviterai après aussi à aller voir l'exposition au sous-sol, au rez-de-chaussée, ou sur son stand qui est juste derrière, où vous pourrez voir les très jolies illustrations de Laure. Donc, pour l'instant, je vais vous montrer celle en noir et blanc. Donc, on a une jeune fille qui apparemment se bat avec des pinceaux, et on a les fioles qu'elle boit, donc qui sont en arrière-plan. Je vais laisser quand même Laure en parler un peu mieux que moi, avec de très très belles couleurs donc à voir à l'exposition. Et cette nouvelle, je l'ai placée dans la partie révélare velum du sommaire, c'est-à-dire lever le voile, parce qu'il y a une sacrée découverte.
Alors déjà, j'ai été ravie d'avoir une illustration jeunesse, enfin d'avoir une nouvelle jeunesse, parce que la jeunesse, c'est toute ma vie. Et du coup, ça me faisait plaisir que ce soit présenté dans l'anthologie, et ça me faisait plaisir de pouvoir l'illustrer aussi. Ça me permettait beaucoup plus de choses que pour une nouvelle un petit peu plus adulte, parce que je savais que je pouvais déformer des personnages. La nouvelle, en plus, vu qu'elle parle des comics, donc j'ai utilisé de la trame, j'ai dupliqué des lignes pour créer un effet un petit peu bizarre, et qu'il y ait une multiplication de certains éléments, et c'était vraiment cool à faire. Et ouais, avec la version couleur, comme ça, ça m'a permis de mettre encore plus en valeur ces éléments que je voulais qu'on ait dans la nouvelle, enfin dans l'illustration. Et l'histoire, elle était bien. Enfin, genre... j'ai retrouvé beaucoup de dystopie et tout ça, de ce que je pouvais déjà connaître par exemple dans Hunger Games ou des trucs du genre. Et je crois que j'avais eu une autre idée quand je l'avais lu, je sais plus le nom. Mais ouais, là, on se bat avec. Enfin, globalement, elle se bat un petit peu contre son système, avec son art et tout ça, et du coup, ça a beaucoup résonné par rapport à Où est Charlie, etc. Et ouais, très contente d'illustrer ça, genre vraiment c'était un peu moi aussi, genre je participe à cette guerre contre le gouvernement, en fait, parce que je mets ma patte à l'intérieur et tout, et voilà.
Alors Nadia, qu'est-ce qui t'a inspiré pour cette nouvelle, peut-être par rapport à la palette?
En fait, ça fait très longtemps que je travaille. Alors moi, j'écris de la littérature jeunesse, vous avez compris. Hein. Alors cette nouvelle, elle n'est pas pour les 8-12 ans. Hein. Elle est quand même plutôt ado-adulte. Donc si vous la lisez, vous n'allez pas vous dire « ça va, c'est pour les bébés hein. ». On est quand même... voilà, c'est juste qu'il n'y a pas de scène de fesses et il n'y aura pas trop de violence. Hein. Donc voilà, c'est la grosse différence avec ce qu'on pourrait classer complètement dans quelque chose de très adulte. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, si vous lisez ça, vous avez le droit. En fait, moi, je suis dans une réflexion. Hein. J'ai fait beaucoup de livres... J'ai fait 34 bouquins. Dans ces 34 bouquins, il y a de la fantasy, il y a de la science-fiction, il y a du fantastique, il y a plein de choses. Sur les romans de science-fiction que j'ai travaillé beaucoup sur le futur, dans les années 2070, 2080, enfin vraiment des futurs différents. Et il y a dans mes recherches toute une partie du travail que j'ai fait sur l'alimentation. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on va manger dans le futur. Moi, j'ai voilà autour de moi des réflexions autour de notre consommation de viande. Moi, j'ai été intolérante au gluten pendant 8 ans. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses qui font que voilà, qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on va manger m'intéresse. Et du coup, j'étais partie dans une nouvelle un petit peu dans un univers un peu post-apo, un peu à la Soleil Vert, avec ce côté. Mais si on avait un aliment qui remplace tout, voilà, sans gluten, sans lactose, sans FODMAP, sans allergènes, voilà, on mange ça. Et du coup, j'avais envie d'un univers où il y a d'un côté la population qui vit en ville, qui consomme donc du violet, donc c'est une espèce de lait qui enfin voilà, violet, et qui comble leurs besoins quotidiens, et une différence avec les gens qui vivent dans la campagne, où ils mangent des trucs qui ont poussé dans la terre.
Et du coup, avec cette grosse opposition entre ces deux catégories de personnes, et avec vraiment ce mépris des gens de la ville pour les gens de la campagne, en se disant, enfin, ils n'ont rien compris, ils tuent encore des animaux une fois de temps en temps pour nourrir tout le village, ça ne va pas du tout. Et en même temps, les gens de la campagne qui vont regarder ces gens en disant, les pauvres, ils n'ont jamais rien mâché de leur vie, en fait. Et donc j'avais construit tout un univers comme ça, et j'étais dans une réflexion pour vraiment faire un roman, mais il y avait un truc qui marchait pas. C'était très très différent, mais j'étais quand même dans cet univers-là que je construis depuis plusieurs années, qui finira peut-être par faire un roman si j'ai un peu de courage et un peu d'énergie pour arriver à trouver la bonne façon de le faire. Et par contre, a émergé dans cet univers un personnage, donc le personnage de Jade, que vous retrouverez dans la nouvelle, qui a grandi en ville, qui a bu du violet toute sa vie, qui trouve ça normal, et qui va tout d'un coup découvrir l'art, et qui va voir comment l'art a été conservé dans des espèces de bornes médias, un peu comme si on avait une espèce de vous voyez, ces bornes d'arcade pour jouer à des jeux vidéo, mais où on pourrait retrouver vaguement les ordinateurs d'aujourd'hui. Mais c'est marrant parce que les tableaux qui ont été conservés en photo, il y a des fois des petits carrés noirs qui cachent des choses. On ne sait pas trop ce que c'est. Alors, c'est pas forcément très explicite. Enfin, moi, je pense que vous allez le comprendre très vite. Mais en fait, tout ce qui a trait à la nourriture est caché. Toute la nourriture est cachée dans l'art, en fait, et, parce que ça devient tabou de manger des choses. Du coup, tout est censuré dans tous les tableaux, dans tout ce qui... Et elle va découvrir... petit à petit, l'art et comment, en fait, il y a différentes doses de violet, plus ou moins rouge, plus ou moins bleu, selon ce qu'on veut faire, et que finalement, si on veut créer, peut-être qu'on n'est pas obligé de boire le violet et d'être conditionné à vivre une vie sans sortir du cadre. J'essaye de pas trop en dire, mais j'espère que vous avez à peu près l'idée.
Il y a vraiment une notion d'équilibre, et en fait, cet équilibre parfait, il comprend pas l'art. Et donc, pour aller vers l'art, il faut être dans le déséquilibre, en tout cas de ce qui est promu par l'État. Et aller dans ce déséquilibre, alors qu'on a toujours connu l'équilibre, il faut être poussé, animé par quelque chose, et c'est l'art qui va créer cette poussée, en fait, vers cette jeune fille, parce qu'elle, elle voit comment sont ses parents, et elle va... cette rébellion de l'adolescence va la rendre aussi triste de voir que ses parents, eux, ils l'ont pas, en fait. Ils ne la comprennent pas. Et il y a une rupture familiale qui se crée, en fait, dans cette nouvelle, mais qui est peut-être pour le mieux.
Et il y a un truc qui était très important pour moi aussi, c'est de me dire, OK, dans ce monde-là, comment, pourquoi existent encore des artistes? Et en fait, les artistes sont un peu au service des puissants, qui ne boivent pas du violet, bien sûr, ils vont boire du doré, on boit autre chose. Et en fait, qui vont faire des mécénats. Donc tous les artistes sont dépendants des mécénats des puissants. Et du coup, il y a ce côté, on peut créer, mais en fait, on crée pour pouvoir avoir notre dose de violet quotidien, ou en tout cas, voilà. Et il y avait ce côté supporter l'art, supporter la culture, mais qu'est-ce que ça implique aussi, à quoi ça nous engage? Est-ce qu'on serait prêt à, pour manger, pouvoir n'être qu'au service des puissants, ou est-ce que ça nous permet de développer notre art quand même? À quel moment on se rebelle de ça, on sort un peu du cadre?
Laure, est-ce que tu boirais du violet? Je pense que je suis comme Jade. Si j'en avais bu toute ma vie et tout ça, c'est ma vie. Donc allons-y. Mais après, effectivement, quand on montre une autre sortie possible, mais c'est vachement plus sympa là-bas, en fait. Donc allons-y. Donc oui, au début. Et puis non, je pense que je ferai le même choix qu'elle. Parce que... un peu pas envie de me faire contrôler par des gens qui ne sont pas dans ma vie, et c'est ma vie et pas la leur.
Quand on s'est rencontrés, tu m'as dit que quand tu imaginais le personnage, quand tu as fait l'illustration, tu lui donnais un autre prénom.
Oui, pour moi, elle s'appelle Marly. Voilà. C'est comme ça. Il y a écrit Jade tout du long, mais non, moi, mes fichiers, ils s'appellent Marly. Marly Final, Marly Final 2, mais c'est Marly.
Alors moi, je dis qu'elle n'avait pas de nom de famille spécialement dans l'histoire, donc on peut lui donner ce nom de famille-là, ça ne me dérange pas du tout. Mais c'était très chouette pour moi de me dire, j'ai pas de contrôle du tout sur l'illustration, c'est vraiment ta création et comment toi tu l'imagines. Et c'était très excitant pour moi de me dire, OK, comment quelqu'un d'autre va s'emparer ce texte, comment elle l'imagine, et de voir le résultat. Enfin voilà, moi je suis super, super contente que tu puisses travailler sur ce texte-là. Et Et en fait, dans la nouvelle, vous verrez à un moment, Jade dessine quelque chose. Enfin, elle va créer une illustration. Et j'avais peur de me dire, voilà, la personne qui va illustrer, est-ce qu'elle va juste reproduire l'illustration que fait Jade dans le texte? Est-ce que ça va être vraiment très premier degré de, bon, bah, ok, on va voir le dessin qu'elle fait. Et du coup, je suis très contente que tu sois allée dans...
Justement, c'était à un moment ma première idée, sauf que j'étais, oh, c'est bateau. Et il y avait aussi, ouais, mais... souvent, il faut éviter de donner des. Quand c'est décrit dans le texte ou quand c'est une image puissante dans le texte, très souvent, il faut éviter de l'illustrer pour que justement le lecteur puisse se faire sa propre idée et tout ça. Donc vraiment, j'étais. Bah, du coup, non, encore plus. Et puis en plus, et ça, c'est quelque chose qui m'est propre, c'est que l'illustration que tu as décrite, elle est composée de plein de petits trucs. Et j'ai la flemme. Vraiment, j'étais, ouais, on va vraiment partir sur autre chose, parce que ça, c'est hors de question, pour toutes ces raisons-là, et surtout la flemme de faire 3 milliards de feuilles. Et donc, ouais, je voulais partir sur autre chose. J'ai un petit peu galéré pour trouver un petit peu la compo que je voulais faire. Je savais que je voulais mettre le violet, je savais que je voulais mettre Marley. Et je savais qu'il fallait quelque chose en rapport avec l'art, parce que bah, c'est ça qui va la sauver, et c'est ça qui va peut-être changer son monde. Et du coup, j'ai un petit peu galéré. Et donc, je suis, il y a un moment, j'ai trouvé cette compo où il y a une dualité avec ce qu'il y a derrière elle, et elle qui va se battre juste avec son art. Et j'étais, hey, ça va être cool, ça c'est sympa, on y va, let's go, et ça va être rigolo.
Pour information, l'illustratrice Cassandre de Delphes a illustré le tag qu'il y a dans la nouvelle de Jérémy Bouquin. Et c'est très très bien ce qu'elle a fait. Vous pouvez le voir aussi à l'exposition au rez-de-chaussée. Et donc c'est très bien que tu aies choisi autre chose, Laure, parce que comme ça, ça nous fait deux types d'illustrations très très différentes. Et donc bah, c'est vrai que c'est, voilà, c'est dommage pour l'anthologie, on n'a pas la couleur, mais grâce à, voilà, à l'exposition à Imaginaire, on peut l'avoir autrement, et sur ton stand aussi, on peut l'avoir. Bah, écoutez, bah, merci à toutes les deux. Votre duo, ça fonctionne très très bien. J'espère que peut-être que vous travaillerez ensemble à l'avenir. Et est-ce que vous avez une petite question peut-être à adresser à l'artiste ou à l'autrice?
C'est une question pour Nadia. Ton personnage, donc Marie pour le coup, passe son temps à passer devant cette fresque d'un hôpital qu'elle regarde et que finalement elle ne voit pas. Et ma question, c'est, est-ce que par manque d'éducation ou de pédagogie, on n'est plus capable de reconnaître l'art, ou est-ce que c'est le liquide qui désinhibe un petit peu comme Equilibrium toute sensibilité, dans ce cas pas uniquement à l'art?
Ouais, en fait, dans ce monde-là, c'est, pour moi, c'est pas tant la culture que l'inhibition hormonale, finalement, quelque part liée à la consommation de violet. Et en fait, on est plus ou moins sensible, on est plus ou moins réactif. Et c'est vrai que Jade, quand elle va se retrouver face à cette fresque, tout début, elle va ressentir des émotions très très fortes, avoir les larmes aux yeux, et alors que c'est des choses qui lui arriveraient pas du tout. Et en plus, en voyant les autres ne pas réagir, elle va se rendre compte que c'est peut-être pas normal, ou en tout cas, c'est peut-être étrange qu'elle réagisse aussi fort. Elle a jamais imaginé pouvoir ressentir des émotions comme ça face à un dessin, en fait. Et c'est vrai que ça va être le point de départ des questions qu'elle va se poser sur les émotions qu'elle va ressentir, qui sont normalement pas des choses qu'autour d'elle les gens ressentent, quoi. Mais pour moi, c'est plus lié à l'inhibition liée à ce qu'elle consomme que pour dénoncer spécialement un manque de culture ou quoi. Je pense que, enfin, voilà, c'est aussi notre façon de voir le beau. Ça pourrait être, enfin voilà, elle aurait pu faire ça pas forcément devant une fresque, mais ouais, c'était ce qui est intéressant dans la littérature d'une manière générale, dans la littérature jeunesse peut-être en particulier, c'est vraiment le moment où ça bascule, le moment où ça change, le moment où on ouvre les yeux sur quelque chose qu'on acceptait jusque-là et que tout d'un coup on n'accepte plus. Et du coup, à la base de mon travail, il y a énormément de sensations et d'émotions. Du coup, voilà, les émotions fortes qu'elle va ressentir en voyant pour la première fois vraiment une fresque, voilà, ça va être le point de départ du moment où ça change, donc tout l'intérêt d'avoir un texte où quelque chose se passe.
Ben, je vous invite à lire cette nouvelle, à lire aussi les autres nouvelles de l'anthologie et puis à rencontrer tous nos auteurs et nos autrices, nos illustrateurs et nos illustratrices qui sont ici. Merci beaucoup à vous pour votre présence et puis je vous souhaite un très bon dernier jour de festival. Merci beaucoup.
Ouais, bon, on n'aura pas le temps d'écouter True Damage, le choix de Manon. On te fait des bisous quand même, Manon.
Bisous, Manon.
Sébastien, tu avais des choses à nous annoncer pour le week-end?
Oui, on a un super vernissage de Candice Roger pour l'expo, la quatrième du Monde sur le Balcon.
Candice Roger, entre autres, hein, du Monde au
entre
Balcon,
autres,
il y a plusieurs...
Ouais. Qui initie ça.
Artistes, c'est toujours l'atelier Fishbrain, Rudina.
Toujours l'atelier Fishbrain, Rudina, 18h, vendredi 31 mai. Et on a le club...
Crayon. Donc, deuxième édition du festival de la bande dessinée alternative. Cette année, ce sera donc au 7 rue Plantagenêt, ex-maison des projets. On y retrouvera Candice d'ailleurs, elle est partout. Bon, bah, nous, on se retrouve dans deux semaines sur le 101.5. Ouais, Pierre-Marie ?
Oui, oui, je fais juste une aparté, j'aime bien parler quand je suis là. Candice Roger ne sera pas au vernissage de Fishbrain, parce que Candice Roger fait partie des organisatrices, d'où son nom. Mais elle n'a été en vernissage que la première année, c'est la quatrième édition de Fishbrain, du Monde au Balcon, cette exposition, avec 10 nouveaux illustrateurs qui n'ont jamais été exposés lors de cet événement.
Allez, on se retrouve dans deux semaines, bisous, bisous, ciao.
Salut,
salut. Salut tout le monde. 101.5 FM.